morning edition from NPR News.
Nancy Keene's on Peterhouse.
France Inter, le 18-20.
Vous savez confusément que les Ouïghours sont une minorité installée dans une province de Chine. Vous vous souvenez peut-être que leur surveillance, leur enfermement a déjà été dénoncé à plusieurs reprises. Mais depuis ces documents parus cette semaine dans le New York Times grâce à un lanceur d'alerte, on sait encore mieux à quel point la Chine entend effacer cette minorité. On a tant de choses à apprendre sur les Ouïghours et on y vient tout de suite. Le bruit du monde est au Niger ce soir. Et dans le cadre de cette journée spéciale sur France Inter, les enfants d'abord, nous sommes avec l'UNICEF. Vous verrez ce que donne la scolarité des filles au Niger et peut largement mieux faire. Amélie Perrier, dans un tout autre genre, nous parlera de charbon sans fumée, c'est en Mongolie, et d'un ours à la télé polonaise. 18h50, le cinéma en VO, et Corinne Pellissier qui nous racontera qu'une princesse n'a pas besoin qu'on l'embrasse pour être pleine de vie. 18h55, le monde à l'envers, et Jean-Marc Four qui va tordre le cou à quelques idées reçues. Non, le terrorisme n'est pas exactement ce que vous croyez, il vous expliquera pourquoi. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Dilnur Rehan.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sociologie, enseignante notamment à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes également directrice de publication de la revue bilingue Regard sur les Ouïghours. C'est pas tous les jours qu'on parle des Ouïghours dans Un jour dans le monde, objectivement. On le fait aujourd'hui parce qu'un lanceur d'alerte chinois a donc donné des documents qui ont été révélés par le New York Times et repris ensuite. Ces documents mettent en lumière une machine d'internement chinoise, réellement, des Ouïghours. On parle même de la campagne d'internement la plus importante depuis Mao. Des informations qui ne font que donner corps, au fond, Dilnur Rehan, à ce que vous saviez déjà, ou est-ce que vous avez découvert, vous aussi, l'ampleur de ces internements ?
Non, ce n'était pas une surprise pour nous, parce que, en tant que chercheuse travaillant sur les Ouïghours, comme les autres chercheurs et la communauté Ouïghour, nous étions au courant de ce qui se passe et de l'ampleur de cet enfermement. Ces documents n'ont fait que confirmer ce que nous savons déjà.
Et change peut-être un regard sur la communauté ouïghour, en tout cas c'est ce que vous espérez ?
Complètement, oui. Et surtout, enfin, maintenant qu'on sait beaucoup de choses, enfin, qu'on sait beaucoup de choses. Ces documents prouvent beaucoup de choses que qu'on sait et qu'on répète, mais qui n'ont pas jusqu'à là entendu par la communauté internationale. On espère maintenant que ça donne un résultat positif pour le sort des Ouïghours.
Alors, j'aimerais bien qu'on se résume un peu pour les gens qui nous écoutent. La minorité Ouïghour est principalement musulmane. Vous nous expliquez où elle se trouve en Chine. On va dire qu'on est dans une province qui s'appelle le Jingyuan, que probablement je prononce n'importe comment. Allez-y.
C'est bien ça.
Très bien. À peu près 11 millions, on est à la frontière quasiment avec l'Asie centrale, en fait, pour résumer un peu schématiquement pour les gens qui nous écoutent.
En réalité, les Ouïghours vivent dans le pays ouïghour,
oui,
qui est annexé par la Chine populaire depuis 1949. Donc c'est une région centra-asiatique, donc l'Asie centrale, c'est la partie orientale de l'Asie centrale.
Donc elle a été purement indépendante et autonome, cette
Tout
province,
d'accord. Jusqu'en 1949, la région, elle s'appelait République de Turkestan orientale.
D'accord.
En 1949, la Chine communiste a annexé la région officiellement. Depuis, il y a une résistance contre le colonialisme chinois de la part des Ouïghours par des différents moyens de résistance. Juste rappelons en fait l'ampleur de ce colonialisme. En 1949, il y avait effectivement une population chinoise qui vivent dans la région. Ils étaient 4% contre 80% des Ouïghours. En 2010, ils étaient 45% contre à peu près même pourcentage de Ouïghours.
Une stratégie chinoise qui ressemble à la stratégie vis-à-vis du Tibet, en fait. L'idée, alors avec en plus, et on va y venir, des internements, des enfermements forcés visiblement, mais une manière aussi d'essayer d'assimiler à marche forcée en faisant rentrer des Chinois à l'intérieur de cette province. C'est un peu
complètement. Enfin, le cas tibétain est similaire. En effet, on parle beaucoup de... On est beaucoup plus sensibilisé en Occident sur le cas tibétain. Fort heureusement, au Tibet, la présence chinoise, elle est peu conséquente, puisqu'en fait, les Tibétains, ils sont au-dessus de 90% au Tibet encore. Ce n'est pas le cas malheureusement des Ouïghours.
Et puis il y a un Dalai Lama autour du Tibet, et il n'y a pas de représentant auprès des Ouïghours qui est capable de porter ces revendications auprès de la communauté internationale. Un mot encore sur la géographie parce que c'est important. Ça veut dire qu'on est dans une zone tampon au fond entre la Chine et l'Asie centrale. On est sur l'ancienne route de la soie, cette fameuse route que Xi Jinping, le président chinois, veut remettre aujourd'hui au goût du jour. C'est ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que stratégiquement, cette zone est extrêmement importante pour lui.
Complètement. D'où, en fait, cette répression massive et soudaine et avec ce système fasciste de camps de concentration.
Alors, vous dites soudaine. Est-ce que vous diriez que depuis Xi Jinping, ces camps, cet enfermement s'est développé particulièrement? Est-ce que ces fameux camps dont parle le New York Times là, c'est l'œuvre de Xi Jinping ou ça datait même d'avant?
Disons qu'en fait, la Chine communiste a cette historique de camps de rééducation. Ce n'est pas nouveau pour la Chine communiste. Cependant, en fait, de cette ampleur, parce que rappelons que c'est des camps de concentration ethniques, visant uniquement les Turciques, c'est-à-dire les Ouïghours, les Kazakhs, les Kirghizes, les Ouzbeks. Et donc, ça ne concerne pas les musulmans chinois, par exemple. Donc, effectivement, de ce point de vue, c'est l'œuvre de Xi Jinping.
Et ça se traduit comment? Ça veut dire quoi, ces camps? Est-ce que ça veut dire interrogatoire? Est-ce que ça veut dire le redressement psychologique? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces camps-là?
Selon les récits des rescapés que nous avons recueillis depuis plusieurs années, effectivement, l'intérieur des camps, c'est de torture physique et psychique. C'est-à-dire qu'enfin, il y a effectivement un enseignement, une discipline pour l'apprentissage du chinois, mais aussi des chants et des récits pour à la gloire de Xi Jinping et du Parti communiste. Et dans le camp, en fait, ce qui est important à pointer, c'est aussi la première cible de ces arrestations concerne l'élite ouïghour, c'est-à-dire les intellectuels, les artistes, les hommes et les femmes d'affaires, les sportifs, c'est-à-dire les meilleurs de la société ouïghour, qui peut représenter l'existence ouïghour.
Ça veut dire que certains parlent d'un génocide culturel, c'est-à-dire un ethnocide. En fait, je ne sais pas si le terme est réellement choisi. C'est le terme qui vous semble approprié, que vous employeriez
complètement.
Aussi.
Le génocide culturel, c'est le moindre terme actuellement. Et que les Ouïghours parlent de génocide tout court.
Dilnur Yen, est-ce qu'on en sort de ces camps-là? Est-ce qu'on en sort pour raconter? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu, une fois, je vais mettre des guillemets, remis dans le droit chemin, sortir et reprendre une vie normale dans cette province ou pas du tout?
D'après ce qu'on sait, au Kazakhstan actuellement, il y a environ 2000 rescapés. Et tous les rescapés ont un problème médical, psychique ou physique. Donc, ils ont besoin d'un examen ou d'un traitement, d'un soin médical. Et ailleurs aussi, en Occident, on a plusieurs rescapés. Tous, ils ont problèmes de santé. Et qu'à l'intérieur, nous avons vu aussi les vidéos et les photos de certains rescapés qui sont sortis effectivement après la, entre guillemets, rééducation, qui sont totalement fragilisés. Souvent, ils ont perdu la capacité normale de leur santé.
De quoi a peur la Chine? La Chine avance des arguments de terrorisme, elle avance des arguments de séparatisme. De quoi elle a peur exactement? De quoi a peur Xi Jinping?
Parce que les Ouïghours, comme je disais tout à l'heure, enfin, le pays Ouïghour, c'est-à-dire enfin, en chinois, c'est le Xinjiang, qui veut dire nouvelle frontière, nouveau territoire. Vous voyez, c'est un terme en soi. C'est un terme colonial. Et les Ouïghours préfèrent appeler soit Ouïghouristan, soit Turkestan oriental.
Donc ça veut dire qu'il y a une vraie peur de séparatisme.
Absolument.
Mais est-ce qu'elle est fondée, cette peur de séparatisme? Est-ce qu'il y a des indépendantistes Ouïghours? Et est-ce que pour avancer leurs arguments, ils ont pu employer des méthodes terroristes? On va dire des méthodes violentes.
Les résistances ouïghours ont toujours existé de différentes manières. Il y a eu des résistances par la violence aussi, parce qu'il y a une réelle répression quotidienne, humiliation et injustice sociale qui se passe tous les jours dans la vie des Ouïghours. Et que les Chinois présents et le gouvernement, ils leur ressentent tous les jours leur statut de citoyen de seconde zone dans leur propre pays. C'est pourquoi aussi il y a des résistances et que ces résistances sont souvent interprétées par l'État comme séparatisme avant 2001. avant le 11 septembre 2001. Après le 11 septembre 2001, toute résistance, moindre contestation a été interprétée comme un terrorisme. Donc évidemment, comme je disais tout à l'heure, ces camps de concentration, ce sont des camps ethniques, ils n'ont pas religieux. Et que l'islam, l'islam est utilisé uniquement par le gouvernement pour justifier, pour couvrir, à la fois à l'intérieur de la Chine pour justifier les arrestations et à la fois à l'extérieur pour justifier au nom de prévention de la lutte contre l'extrémisme religieux.
Et en utilisant aussi le fait qu'il y a eu un certain nombre, quelques dizaines ou plusieurs dizaines de Ouïghours qui se sont enrôlés dans l'État islamique en Syrie à une période. J'imagine que ça fait partie des arguments qui sont largement utilisés par la Chine.
Absolument, absolument. D'autant qu'en fait, ces Ouïghours qui sont sortis sans rien du pays, en nombre aussi, ça pose des problèmes ou alors ça pose des doutes dans la diaspora. Et qu'en réalité, dans la diaspora, les Ouïghours soupçonnent que ces Ouïghours sont intentionnellement envoyé par l'État chinois. Maintenant, c'est combien est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, on n'a pas les preuves. Cependant, même si c'est vrai, disons, et que en France, on en a combien? Des Français qui ont rejoint
en France et dans tous les pays d'Europe. Ça existait dans tous les pays d'Europe.
Est-ce que si pour autant on a enfermé la totalité de la population française?
Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation de l'Union européenne? Est-ce que c'est un risque? Parce qu'effectivement, quand on est enfermé dans des camps, quand on a peur, on parle aussi beaucoup d'une extrême surveillance de la part des Ouïghours, vous nous le direz d'ailleurs, en Chine, mais aussi à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation à l'intérieur de la province ou pas?
À l'intérieur de la province, c'est difficile à dire, puisqu'en fait, la surveillance, elle est au point c'est un état de policier le plus surveillé au monde. Mm-hmm. Donc, à l'extérieur, c'est difficile à dire. Les personnes, ils n'ont même pas la liberté de circuler dans leur propre quartier.
Mais est-ce qu'il y a des figures qui peuvent émerger, qui peut-être sont en exil aujourd'hui? Y a-t-il des figures, des porte-paroles? On parlait tout à l'heure du Dalai Lama pour comparer avec le Tibet. Est-ce que ça existe parmi l'élite ouïghour?
Comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur de la région, l'élite ouïghour, elle est totalement mise à terre. Ils étaient la première cible de ces camps. Tous les meilleurs éléments de la société ouïghour sont dans les camps maintenant. À l'extérieur, dans la diaspora, il y a le mouvement, notamment représenté par le Congrès mondial ouïghour. Et il y a plusieurs figures intellectuelles aussi. Cependant, on ne peut pas parler d'une quelconque figure particulièrement charismatique comme Dalai Lama.
On en parle peu, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est vrai, on a l'impression que vous êtes tombé dans une sorte de trou noir, en fait, les Ouïghours. Comment on explique ce silence-là, qu'il n'y a même pas un mot, rien du tout, y compris quand on parle de droits de l'homme, quand on parle un peu de droits de l'homme en visite en Chine, en général, les Ouïghours ne sont pas du tout dans la conversation. Pourquoi, selon vous?
Parce que, d'une part, la première raison, à mon sens, c'est économique. Le poids de la Chine dans le monde d'aujourd'hui, que j'estime que surestimé par les pays. La deuxième raison, malheureusement, ce que j'estime aussi comme beaucoup de Ouïghours, c'est que leur statut, leur identité musulmane. Et puis, la Chine aussi a profité de ce climat islamophobe dans le monde. D'autant qu'elle est en même temps, elle est très proche. Elle a réussi à racheter le silence des pays dits musulmans. Et puis finalement, effectivement, nous n'avons pas une figure comme spirituelle comme Dalai Lama, et qu'il n'y a pas eu de film hollywoodien pour représenter la cause ouïghour.
Eh bien écoutez, l'appel est lancé, il y a un peu de cynisme dans ce que vous dites, mais j'entends exactement ce que ça veut dire. S'il n'y a pas de film hollywoodien, s'il n'y a pas de Brad Pitt pour le faire et le montrer, ben ça devient extrêmement différent. Dilnur Reyhan, vous êtes docteur en sociologie, je le rappelle, et directrice aussi de la publication de la revue bilingue Regard sur les Ouïghours. On a été content d'en parler avec vous ce soir. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Sintès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde, ça se passe au Niger. Les enfants d'abord, c'est le thème de toute cette journée sur France Inter pour célébrer les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant avec l'UNICEF et avec Combini. Le Niger, on en parle ce soir avec un pays où les enfants sont très peu scolarisés, les fillettes encore moins. Le bruit du monde, la suite, Amélie Perrier, rien à voir, vous nous parlez de charbon sans fumée en Mongolie.
Oui, on a inventé ça à Oulan-Bator pour moins polluer, mais ça tue des gens.
Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier qui, comme la Reine des Neiges, n'a pas besoin d'un garçon pour la réveiller. Le monde à l'envers et Jean-Marc Four.
Mes hommages
Jean-Marc.
Du soir.
Vous avez lu le Global Terrorism Index, Jean-Marc, ça a l'air extrêmement abscon comme ça, pas du tout. Le terrorisme, en fait, n'est pas ce qu'on croit.
Exactement,
parfois.
Exactement, voilà un rapport impressionnant qui combat quelques idées reçues sur le sujet.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Caire, tiens, avec quelques détours. Natasha Atlas et I'll Put a Spell on You, très jolie reprise. Le bruit du monde ce soir est au Niger et vous l'entendez, nous sommes dans une cour d'école puisque vous savez toute la journée sur France Inter, les enfants d'abord, c'est une journée spéciale en partenariat avec l'UNICEF pour célébrer les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et l'une des grandes causes de l'UNICEF, vous le savez, c'est l'accès à la scolarité, un droit particulièrement bafoué au Niger. Dernière place au classement mondial, un enfant sur deux n'a pas accès à l'école, 6 fillettes sur 10 sont déscolarisées entre tradition, mariage précoce, menace des terroristes aussi sur leur scolarisation. Voici le reportage de Rémi Brancato à Niamey, la capitale nigérienne.
C'est une cour d'école publique en terre dans le quartier de Tondibia, en périphérie de Niamey.
J'aime l'école très bien. Venir la première de ma classe.
Tu voudrais faire quoi plus tard ?
Docteur.
Ici, c'est rare, les filles comme Yasmina en CM2 sont majoritaires. Mais comme partout au Niger, c'est à la fin du primaire que les choses se gâtent, confie le directeur Mahamadou Amasedou.
Généralement, c'est le manque de moyens qui fait en sorte que vous allez voir l'enfant va abandonner donc, au niveau donc, du secondaire. C'est fréquent, on voit ça.
Car au Niger, un enfant sur deux ne va pas à l'école. Beaucoup décrochent, constate Alima Gibon, l'une des institutrices.
Beaucoup d'élèves ne savent pas lire. Et à l'école primaire, quand on ne sait pas lire, donc où est-ce qu'on va partir ? On ne va nulle part. Si l'enfant n'a pas le niveau arrivé au collège, on va le renvoyer.
Ici, en CM2, certains ne savent pas lire.
Beaucoup ne savent pas lire. Dans ma classe, on peut avoir jusqu'à 30 qui ne savent pas lire une phrase. Donc, il y a problème.
N'oubliez pas la date. N'oubliez pas d'écrire la date. Nom et prénom. Vous mettez exercice
Numéro 2.
Cette déscolarisation massive, les filles en sont les plus victimes. Elles décrochent plus vite. Près de 6 sur 10 sont déscolarisées. Récemment, le gouvernement a mené une étude interrogée ces femmes qui n'ont pas eu d'éducation. Ramatou, 29 ans, a témoigné. L'école, elle l'a connue pendant 3 mois seulement à l'âge de 7 ans. Frappée par un enseignant, elle refuse d'y retourner. Ses parents n'insistent pas. Un choix dont elle paye encore aujourd'hui le prix avec ses 2 enfants.
Si j'étais restée à l'école, j'aurais un revenu, je serais indépendante financièrement. Je pourrais prendre en charge ma famille, mes enfants. Mais je suis divorcée et le père de mes enfants n'envoie que 15 000 francs CFA par mois. C'est insignifiant pour 2 enfants. Le plus important pour moi, c'est que mes enfants ne subissent pas la même chose. Si ma fille refuse d'aller à l'école, je veillerai à ce qu'elle y retourne. J'irai vérifier. Je vais laisser ma fille étudier. Je ne veux pas la marier tout de suite. Quand elle sera diplômée, elle aura un mari.
Au Niger, 3/4 des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, 1 sur 3 avant 15 ans. Encourager leur maintien à l'école devrait donc être la priorité, répète inlassablement l'UNICEF et sa représentante dans le pays, Hilaria Carnevel.
Tout enfant a les droits à l'éducation, à la protection. Le mariage des enfants, c'est l'une des plus colossales violations de ces droits. Si plus de filles vont à l'école, plus de filles seront aussi protégées du mariage précoce, ce qui aura aussi une retombée forcément positive sur des situations que beaucoup d'enfants vivent au Niger, la malnutrition des enfants et en général la santé des enfants.
Cet enjeu, le gouvernement l'affiche désormais comme une priorité avec un plan national pour la scolarisation des filles, lancé il y a 2 ans, en charge de l'appliquer Mariama Chipkaou, directrice de la scolarisation des jeunes filles au ministère de l'Éducation, qui bataille notamment face à une population à 84% rurale.
Bonjour madame, comment allez-vous ?
Les parents refusent de scolariser leur fille parce que la fille doit contribuer aussi au ménage. Certains villages ne sont pas dotés de points d'eau. C'est la fille qu'on envoie à des kilomètres chercher de l'eau. Et même si elle doit aller à l'école, elle ne peut pas. On ne l'attend pas pour commencer. Ce qui fait qu'au niveau de certains villages, le compromis qu'on a trouvé avec les enseignants, c'est de décaler le début des cours.
Désormais, les directeurs d'école qui refusent les filles doivent être sanctionnés et les équipes de Mariama Chipkaou parcourent les villages du Niger pour sensibiliser les parents, les communautés. Malheureusement, dit-elle, le budget manque et tous les villages n'ont pas pu être touchés.
Nous n'avons pas les moyens. Aujourd'hui, la priorité des priorités au Niger, c'est d'assurer la sécurité. Il y a la situation de Boko Haram qui est là, il y a la situation avec la frontière du Mali. Devant cette situation, il est difficile de respecter les prévisions budgétaires.
Avant même l'éducation, c'est l'intégrité du territoire qu'il faut préserver au Niger. Près des frontières du Mali, du Burkina Faso ou du Nigeria, les groupes terroristes multiplient menaces et attaques envers les écoles ces derniers mois.
Rémi Brancato pour le reportage. Merci beaucoup Rémi. On va revenir à cette journée spéciale UNICEF. Ce sera dans la deuxième heure du 18-20. Je vous en parlerai tout à l'heure. Allez, le bruit du monde passe aussi sous les radars comme d'habitude et c'est grâce à Amélie Perrier. Et Amélie, on ne dirait pas comme ça, mais nous sommes à Oulan-Bator.
Ah si, si, moi je reconnais.
C'est loin,
bien.
Capitale de la Mongolie.
Effectivement, c'est la capitale la plus froide du monde. J'ai regardé la météo, hein. Aujourd'hui les températures sont allées de moins 19 à moins 6 degrés. C'est la plus froide et parmi les capitales les plus polluées aussi, car là-bas on se réchauffe avec du charbon. Alors pour purifier un peu l'air, les autorités ont inventé et distribuent gratuitement du charbon sans fumée et elles interdisent les autorités le charbon brut. Sauf que ce nouveau charbon provoque des morts en série. Écoutez cette mère au micro de l'AFP, elle vient de perdre sa fille ainsi.
Nous ne voulions pas utiliser le charbon, dit-elle. Nous ne savions pas comment le faire brûler. Nous n'avions pas les instructions. Et nous l'avons brûlé. Et à cause de ça, ma fille est morte. Je suis très triste que ce malheur nous soit arrivé. Pour une mère, j'avais tant donné à ma fille pour qu'elle soit qui elle est. Et penser qu'à cause de ça, je l'ai perdue. Je suis accablée de chagrin. C'est tellement, tellement dur pour moi. Le charbon sans fumée a tué en tout 8 personnes à Oulan-Bator, mortes asphyxiées, des enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes surtout. Des dizaines d'autres ont été hospitalisées. Les briquettes sans fumée durent plus longtemps et chauffent mieux que le charbon traditionnel, mais ce charbon-là consomme 2 fois plus d'oxygène, donc il faut ramener son poêle avant de l'utiliser. L'usine d'État qui produit ce nouveau combustible propose un service de ramonage gratuit depuis les premiers drames. Les autorités promettent aussi de distribuer gratuitement des détecteurs de monoxyde de carbone. Une bonne nouvelle quand même, le taux de particules fines est en baisse de 40% à Oulan-Bator entre le mois dernier et le mois d'octobre de l'année passée. Certainement l'effet du charbon sans fumée, mais aussi de foyers qui se chauffent moins par peur de l'intoxication.
La Pologne face à un dilemme, elle doit choisir entre sa fête de la Saint-Sylvestre et ses ours.
Oui, le débat fait rage et oppose d'un côté la très puissante télévision publique polonaise, la TVP, et de l'autre les défenseurs de la nature de Zakopane, en cause ce show.
Ubiegłoroczny Sylwester marzeń z dwójką był bezkonkurencyjny, a to wszystko dzięki państwu.
Et comme vous parlez couramment polonais, Fabien, vous avez reconnu, c'est la soirée du 31 décembre, c'est une promo télé hein, pour ce concert en plein air à Zakopane, c'est une station de ski. Plusieurs dizaines de milliers de personnes y assistent sur place et des millions regardent le show à la télé. Jusque-là, la scène était montée près du centre de Zakopane, mais cette année, la TVP a décidé de déplacer l'événement au pied du grand tremplin de saut à ski, tout à côté du parc national des Tatras. Le problème, c'est que des ours hibernent dans ce parc et que le concert risque bien de les déranger, voire de les effrayer. Un patron de journal local a lancé une pétition contre. La direction du parc national a publié une mise en garde et craint une baisse de la natalité des ours. De son côté, la chaîne de télé dénonce des pseudo-écolos et avance que les événements sportifs qui ont eu lieu dans le passé n'ont jamais soulevé un tel tollé. La TVP pense que l'on cherche à l'attaquer, surtout parce qu'elle est très proche du gouvernement nationaliste et ultra-conservateur polonais.
Allez, on termine sur un air d'opéra peut-être.
Ouais, c'est une petite révolution au Turkménistan. Ce pays autoritaire, vous situez, c'est en Asie centrale, entre l'Iran, l'Afghanistan
et l'Ouzbékistan. On y était presque avec les Ouïghours.
Voilà. Hier, pour la première fois depuis 19 ans, il a accueilli, ce pays, une représentation de Pagliacci. Alors ici, c'est la version de Pavarotti. Hier soir, une autre a été donnée avec un soliste italien accompagné de chanteurs turkmènes dans le théâtre d'État d'Ashkabad, la capitale, qui a fait salle comble pour l'opéra donc de l'italien Ruggero Leoncavallo. Et si c'est une première depuis près de 2 décennies, c'est parce que jusqu'à présent, l'opéra, tout comme le ballet d'ailleurs, était considéré par le pouvoir turkmène comme une forme d'art incompatible avec la mentalité turkmène. Pour beaucoup d'habitants et pour le régime, les opéras et les ballets rappellent trop fortement les périodes de domination russe et soviétique. Aujourd'hui, les mentalités commencent à s'ouvrir, en tout cas pour l'art lyrique. Pour le ballet, il n'est pas encore de retour dans cet état parmi les plus fermés au monde.
Ah voilà, peut-être pour bientôt. Amélie Perrier, merci beaucoup. À demain. Tiens, on va changer alors totalement d'ambiance. Avec Roseau sur France Inter. Kat, vous aimez hein, ça, c'est
absolument.
Dans la playlist de France Inter.
Bye. so e un lollipan e un lol ngemkong un lol mbai when un piso le un gwei ninko e benin ni pan bineng el mbai ni uye when ni en me melon a wetam ni en me mengwesa when ni en me melon.
Sur France Inter, la chanson s'appelle 4, c'est dans la playlist. Allez, Corinne Pellissier nous attend avec la reine la plus badass, tiens, de Disney, en français dans le texte.
France Inter. Un jour dans le monde.
Voilà, je voudrais préciser ici que j'ai un pistolet sur la tempe hein, et que je vais donc vous parler aujourd'hui de la Reine des Neiges dans le cinéma en VO avec vous, Corinne Pellissier. La Reine des Neiges qui est de retour sur les écrans ce mercredi. Bande de petits vénards. Into the known, the unknown, pardon. Dans un autre monde, en français, c'est ce qu'on entend en ce moment derrière nous. Après le succès de 2013, Corinne, donc succès planétaire, hein, le fameux libéré, délivré. L'aventure donc continue. C'est plus sombre, c'est plus en phase avec les grandes questions sociétales d'aujourd'hui. On va y revenir un peu longuement. Et vous allez nous dire, alors Corinne, si ça vaut le coup, ce deuxième chapitre et sa nouvelle bande originale surtout.
Oh mais oui, alors un refrain qui reste en tête ou qui vous la prend, ça dépend, hein, Fabienne. En tout cas, pour les réclamations, vous pourrez vous adresser au duo Anderson Lopez qui a composé les 7 nouvelles chansons qui feront peut-être leur entrée dans le top 5 des meilleures chansons des karaokés prochainement, car vous n'y échapperez pas, la Reine des Neiges et la création Disney la plus culte de ces 6 dernières années. 5 millions de spectateurs en France pour le premier volet, considéré jusqu'à l'été dernier comme le film d'animation le plus lucratif de l'histoire, battu depuis par le remake en live action du Roi Lion. Peu de chance en tout cas aujourd'hui que ce Frozen numéro 2 ne batte pas lui non plus de nouveaux records. C'est une suite qui est très attendue et qui est très réussie, beaucoup plus épique et beaucoup plus sombre.
Alors on plaisante Corinne évidemment, mais enfin il y a des choses très sérieuses là-dedans. Le hashtag MeToo est passé par là. Et il y a, semble-t-il, une vraie prise de conscience des questions sociétales du moment.
Voilà, alors aujourd'hui chez Disney, ce n'est plus nécessairement le prince charmant qui s'en va à la fin du film sur son cheval. Ça peut être aussi la princesse. Les lignes bougent depuis 2 ans. Il y a de la place aujourd'hui pour de vrais personnages forts féminins, dans la lignée par exemple d'un Captain Marvel ou du personnage de Rey dans Star Wars. Le public est séduit, il en redemande et de plus en plus, eh bien, ce sont des femmes qui arrivent à la tête des projets. Jennifer Lee, par exemple, travaillait sur le premier chapitre de La Reine des Neiges, mais quand a éclaté le scandale pour harcèlement autour de John Lasseter, eh bien c'est elle qui s'est vue offrir le poste de directrice artistique des studios d'animation, culottée mais tellement encourageant, nous dit la réalisatrice.
Je crois que beaucoup de gens à Hollywood craignaient au départ que le public boude ces héroïnes. Mais quand on voit le succès des films que vous évoquez au box-office, il est clair que ça n'est pas le cas. La période est excitante, ça n'est qu'un début, mais les choses évoluent. La façon dont les studios s'adressent à nous, femmes réalisatrices, a changé. On nous laisse prendre davantage d'initiatives, on a plus de place pour exister, et cela crée un cercle vertueux. Celles qui proposaient déjà des choses, aujourd'hui, vont plus loin. J'ai 2 femmes de plus dans mon équipe de réalisation et un soutien total du studio. Et puis à travailler plus en accord avec les hommes, cela donne de meilleures histoires, plus authentiques, plus humaines. Pour nous, tout cela est à la fois naturel et très positif.
Alors Corinne, plus loin, dit Jennifer Lee, on se souvient que quand les premières bandes annonces du film sont sorties, c'était il y a plusieurs mois, on avait beaucoup évoqué l'hypothèse d'une héroïne lesbienne. On va pas spoiler, mais vous allez quand même nous le dire, est-ce que c'est le cas? Est-ce que Disney a été définitivement audacieux?
Alors, comme dans tous les Disney, il est surtout question ici de dépassement de soi, de vaincre ses peurs, de se battre pour son idéal, pour la vérité. Mais à la fin, il n'y a pas forcément un prince charmant pour embarrasser l'héroïne.
Pour embarrasser ou pour embrasser?
Pour embrasser l'héroïne.
C'est drôle, le lapsus est formidable.
Et c'est vrai, et si on est encore assez loin d'une héroïne gender fluide que certains aimeraient voir à l'écran, eh bien les réalisateurs du film, Jennifer Lee et Chris Buck, sont très réceptifs au sujet.
Il n'y a aucune limite aux actions de nos personnages. Le monde change, l'industrie aussi.
Il n'y a pas que les filles qui ont aimé le personnage d'Elsa et ont pu s'identifier à elle. Les garçons aussi. Beaucoup d'entre eux l'ont prise en modèle de bravoure. C'est un personnage puissant. Et c'est très bien que ça se passe comme ça.
Et la Reine des Neiges est une sorte de révélateur de tout cela. Et je suis sûre que ça va continuer à évoluer.
What would I do without you? You'll always have me.
Alors, est-ce qu'il y aura un troisième volet ou pas?
Mystère et boule de gomme.
Mystère et boule de gomme, c'est à voir. En tout cas, cette suite de la Reine des Neiges, elle fonctionne bien. C'est ce que vous nous dites, Corinne, c'est à voir au cinéma ce mercredi. Merci beaucoup. Vous êtes libérée et délivrée.
Fabienne Saintès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, vous vous penchez ce soir sur les conclusions de l'indice global du terrorisme, une enquête annuelle très respectée d'un institut qui est basé à Sydney. Elle a été publiée ce matin. Elle combat quelques idées reçues sur le sujet. Le terrorisme n'est pas tout à fait ce qu'on croit et c'est votre monde à l'envers.
Première conclusion de cette étude, le terrorisme est en reflux et pas qu'un peu, beaucoup, moins 15% en un an si l'on décompte le nombre de morts provoquées par le terrorisme l'an dernier. 15 952 morts au total dans le monde. Alors, dit comme ça reste évidemment un chiffre très élevé, d'autant que le nombre de pays touchés est important. 71 pays avec au moins un mort dans l'année, 170 000 actes terroristes au sens large recensés sur la planète de l'attentat de masse au petit incident. Mais la baisse, moins 15%, n'en est pas moins spectaculaire. Et c'est la quatrième année de baisse consécutive. Cette amélioration, elle s'explique d'abord par les défaites infligées par exemple au Shebab en Somalie et plus encore évidemment au groupe État islamique en Syrie. Il faut aussi relativiser ce volume global de l'impact du terrorisme en le comparant à d'autres chiffres. 15 900 morts dans le monde, c'est presque deux fois moins que le nombre de morts sur la route rien qu'en Europe l'an dernier. Et quant à l'impact économique du terrorisme évalué à 33 milliards de dollars, c'est dérisoire, moins de 0,01% si on le compare au coût de la violence en général, les homicides, la délinquance, les guerres, etc. De ce point de vue, et dire ça évidemment ça n'ôte rien au drame vécu par les victimes, de ce point de vue le terrorisme c'est petit.
Mais alors vu de France, Jean-Marc, le terrorisme c'est Nice, c'est Charlie Hebdo, c'est le Bataclan et tout ça c'est le groupe État islamique. Là aussi, c'est une question de point de vue en fait.
Oui, parce que nous ne sommes pas et de loin les premières cibles. 95% des actes terroristes se produisent dans des pays en guerre, au Proche et au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud. Il faut le rappeler, les musulmans sont les premières victimes, et de loin, des radicaux islamistes. Le pays le plus touché désormais, c'est l'Afghanistan. 7300 morts l'an dernier, 40% du total mondial des victimes. Ça ne cesse d'augmenter. 466 morts, par exemple, rien que lors de l'attaque de la ville de Ghazni. C'est l'incarnation en fait de l'échec de la politique américaine dans la région, 18 ans après l'intervention contre Al-Qaïda qui a suivi les attentats du 11 septembre. Qui arrive ensuite dans ce palmarès de l'horreur, l'Irak, même si c'est un peu moins pire que l'an dernier, le Nigeria, la Syrie, le Pakistan, et la dégradation la plus forte en un an, c'est le Mali, désormais 13e de cet indice de la terreur, symbole de l'implantation durable du terrorisme dans la zone Sahel. À l'inverse, la situation en Europe s'améliore nettement. Le risque demeure élevé, hein, mais le nombre de victimes de la terreur a baissé de 70% en un an. Le nombre d'attaques ou d'incidents terroristes est au plus bas depuis 2012. Si on met à part le cas de la Turquie, c'est le Royaume-Uni qui est le plus mal classé, 28e. La France est 36e.
Et qui sont les terroristes alors?
Alors, là aussi, c'est en train d'évoluer. Regardons d'abord les groupes radicaux islamistes les plus significatifs. L'État islamique est en recul, 4 fois moins de combattants qu'il y a 5 ans. En revanche, les talibans n'ont quasiment jamais été aussi meurtriers en Afghanistan et en Afrique, en particulier au Nigeria. Le groupe Boko Haram demeure puissant. Ce qui nous conduit à un autre constat. De plus en plus, le terroriste est une femme. une terroriste. Le nombre d'attaques imputables à des femmes, même s'il reste minoritaire dans le total, a augmenté de 450% en 5 ans. Et c'est particulièrement vrai, c'est pour ça que je fais l'association d'idées pour Boko Haram, radicalisation délibérée des femmes parce qu'elles sont davantage susceptibles d'échapper au contrôle des forces de sécurité. Enfin, dernier constat, le terrorisme en essor, c'est le terrorisme d'extrême droite. Par rapport au djihadisme islamiste, ça demeure marginal. Il a tué seulement, entre guillemets, 79 personnes depuis le début de l'année. Mais c'est lui qui progresse le plus fortement, en particulier dans les démocraties occidentales. Christchurch en Nouvelle-Zélande, Halle en Allemagne. Ça vise soit les migrants de confession musulmane, soit la communauté juive. Et ça touche encore plus les États-Unis, comme l'a montré la tuerie d'El Paso cet été, 22 morts. Selon le rapport, ce terrorisme d'extrême droite est aujourd'hui la principale menace sur le sol américain.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, merci beaucoup. Jean-Marc, à demain, nous, on reste ensemble avec le journal de Sébastien Paour. Et puis juste après, le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est ce que nous disent les sondages et ça nous fait bien plaisir. Allez, ne bougez pas.